lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jutroux. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur brisé. The stairways up to la butte can make the wretched sigh, while windmill wings of the moulin shelter you and I. Ma petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sous tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. The stairways up to la butte can make the wretched sigh, while windmill wings of the moulin shelter you. Voilà qu'elle trotte, la lune qui flotte, la princesse aussi. La 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 la. Mes rêves épanouis. Les escaliers de la butte sont durs.
Entendre Rufus Wainwright qui vous prenait la complainte de la butte.
Actualité culturelle, et je prends la liberté de profiter d'un texte de Sophie Ouimet pour vous demander si vous avez un sous-sol, un salon pas redécoré, un chalet, où traînerait quelque chose qui pourrait être soit horrible, soit de l'art, mais vous n'êtes pas sûr. Eh bien, sachez qu'il y a peut-être une solution pour ça. La chasse aux œuvres d'art est ouverte, c'est le titre de Madame Ouimet. Le Consigner Canadian Fine Art, établi à Toronto, parcourt le pays justement pour découvrir ses trésors méconnus ou oubliés. Mardi, des représentants de l'entreprise seront de passage à Montréal et ils invitent les gens à se rendre au Club Atwater pour faire évaluer les œuvres d'art qu'ils ont à la maison. L'exercice peut créer des petites comme des grosses surprises, comme les gens du Consigner l'ont constaté l'été dernier pendant leur tournée pan-canadienne qui les a menés dans 10 villes. À Calgary, ils ont découvert une toile de la peintre canadienne Emily Carr qui a ensuite été vendue aux enchères à 276 000 $. À Montréal, les évaluations auront lieu entre 10 et 16 heures et sont gratuites, mais les organisateurs invitent les gens à prendre rendez-vous avant de se présenter. Polémique au Grand Ballet canadien, un texte de Catherine Lalonde et Annabelle Caillou intitulé « Un faux pas au Grand Ballet canadien ». Une ode à la femme au sortir de l'an « Moi aussi ». L'idée aurait pu être bonne, mais la programmation de la 62e saison des Grands Ballets canadiens de Montréal fait controverse en présentant la femme comme symbole, thème et objet de séduction, alors qu'une seule signature chorégraphique féminine en fait partie. La vision de la féminité dans les mots comme les photos y est jugée par plusieurs comme déconnectée de la discussion sociale, rétrograde, macho ou opportuniste, au point que danseurs et observateurs des grands ballets brisent pour marquer leur désaccord le code du silence qui régit encore le monde du ballet. La saison 2018-2019, présentée à l'encre rose comme une ode à la femme, ne comptera qu'une seule d'entre elles, Cathy Marston, sur les 6 spectacles et 8 chorégraphes annoncés. Pour la soirée femmes, les œuvres seront signées par 3 hommes, Douglas Lee, Mehdi Walersky et Marwick Schmidt. En réaction, une pétition a été lancée par la chorégraphe torontoise Kathleen Rea sur les médias sociaux. Nous vous demandons d'ajouter une chorégraphie féminine au programme Femmes et de laisser une femme raconter sa propre histoire à travers la danse, lit-on dans la missive qui avait récolté plus de 2000 signatures lundi au moment où ces lignes étaient écrites. Je sais que je commets un suicide professionnel si j'émets une opinion négative envers les grands ballets canadiens à visage découvert, a indiqué une des personnes interviewées qui, comme tous ceux qui ont parlé au Devoir et sont encore en relation d'affaires avec la compagnie, a demandé l'anonymat par crainte de représailles. Les grands ballets canadiens sont encore teintés de cette époque où la soumission demandée aux danseurs était quasi totale. Nous n'avons pas la permission de commenter ni de parler de manière négative de la compagnie, sans quoi nous risquons d'être pénalisés, avance un danseur. Ça ne m'a jamais dérangé auparavant, car j'aime profondément les grands. Mais je suis embarrassé de voir la direction que nous prenons. Nous étions un des leaders du monde de la danse et aujourd'hui nous donnons l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Le directeur artistique des grands ballets canadiens depuis juillet 2017, Ivan Cavallari, a affirmé au Devoir avoir été surpris par la pétition. « On ne fera pas de dévoilement de la programmation maintenant, mais des négociations avec des chorégraphes femmes sont en cours », précise-t-il, rappelant les présences de Bridget Brainer et d'Annabelle Lopez-Ochoa dans la saison 2017-2018. « C'est un dialogue qu'on commence maintenant et qui va continuer », indique celui qui a pris l'initiative de rencontrer prochainement l'auteur de la pétition. Il défend par ailleurs la présentation de sa saison. Sur la photo de la soirée femme, il y a 3 hommes entourés de glace, décrit M. Cavallari. La glace, c'est l'eau, c'est la vie. Et la vie nous amène à penser la femme non pas comme une femme fatale, mais simplement comme une femme, comme dans les sociétés autochtones, où elle avait la responsabilité de garder l'eau, une responsabilité de vie, une figure centrale dans les sociétés. Je ne m'offusque pas de voir des créateurs masculins dans un hommage fait aux femmes, explique de vive voix Kathleen Rea. Je suis offensée que les femmes soient exclues de la conversation. D'autant que le milieu de la danse, et particulièrement du ballet, ne serait pas exempt de sexisme, selon Gabrielle Lambe, ex-soliste des grands ballets canadiens. Les hommes ont la vie beaucoup plus facile en ballet parce qu'ils sont plus rares. Ils ne sont pas contraints à la même rigueur d'entraînement. Émilie Durville, ex-première soliste partie en 2013, poursuit « Dans le milieu professionnel, on ne dira jamais à un homme de faire plus de pompe pour gagner du muscle et de mieux porter sa partenaire, mais on dira à une femme de maigrir pour être portée plus facilement. Les carrières des hommes sont moins marquées par la compétition », complète Mme Lambe. Ils sont plus confiants en position d'autorité. Des positions qu'ils occupent plus souvent. Depuis sa fondation en 1957 par Ludmila Shirayev, dont le surnom affectueux était « Madame », les grands ballets ont compté 4 directrices artistiques et 7 directeurs artistiques, en comptant chacun des membres des co-directions. Sur les 332 chorégraphies du répertoire, 52 étaient signées par des femmes, 269 par des hommes, 7 étaient des créations mixtes et 4 créateurs n'ont pu être trouvés dans notre recherche de données. Nouvelle tuile pour Charles Dutoit. Dans la presse, on nous apprend l'Orchestre symphonique de Boston juge crédibles les allégations contre Charles Dutoit. L'Orchestre symphonique de Boston affirme que le réputé chef d'orchestre Charles Dutoit a agressé sexuellement au moins 4 femmes ayant travaillé pour l'organisation dans les années 80 et 90. L'orchestre a annoncé vendredi qu'une enquête indépendante avait déterminé que les allégations de l'ancienne stagiaire Fiona Allen contre le chef d'orchestre suisse étaient crédibles. L'enquête a aussi jugé crédibles les allégations faites par trois autres femmes dont l'identité n'a pas été révélée. Une porte-parole de M. Dutoit n'avait pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat. L'Orchestre symphonique de Boston figure parmi plusieurs orchestres ayant coupé les liens, avec M. Dutoit après que l'Associated Press eut fait état des allégations de Mme Allen et de plusieurs autres femmes. M. Dutoit, qui a épousé la violoniste Chantal Juillet en 2010, a été directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Montréal de 1977 à 2002. Mme Allen allègue que M. Dutoit l'a poussée contre un mur et a placé une main sur ses seins dans sa loge à Tanglewood, la maison d'été de l'orchestre, en 1997. M. Dutoit était depuis longtemps un chef d'orchestre invité auprès de l'Orchestre de Boston. Une critique, celle de Christian Saint-Pierre, et à propos de la pièce « La détresse et l'enchantement », le titre « Chercher sa voix ». Paru chez Boréal en 1984, soit un an après la mort de l'auteur né en 1909, « La détresse et l'enchantement » retrace les années de formation de Gabriel Roy, depuis son enfance manitobaine jusqu'à son retour d'Europe, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. De cette somme, vibrante mémoire d'une femme à la découverte d'elle-même, le solo élaboré par Marie-Thérèse Fortin et Olivier Quémède ne donne malheureusement qu'un aperçu. Qui trop embrasse, mal étreint, serait-on tenté de dire. Bien entendu, pour en arriver à un spectacle de plus ou moins 90 minutes, le tandem a dû procéder à des suppressions draconiennes, mais il reste que les sauts dans le temps sont nombreux, vertigineux et parfois brusques. Si bien qu'on se demande s'il n'aurait pas été plus judicieux de circonscrire une étape dans le parcours initiatique de Gabriel Roy, quitte à y insérer quelques retours en arrière, plutôt que de chercher à rendre justice à tout le cheminement, autant d'événements, autant d'époques, autant d'états d'âme. Pour qui a eu le bonheur de lire l'autobiographie, il est certainement frustrant de voir apparaître aussi fugitivement les différentes incarnations de la narratrice. L'enfant fragile, l'étudiante douée, l'enseignante affectueuse, la voyageuse enthousiaste, la comédienne effrayée, l'amoureuse transie et l'orpheline endeuillée. La nature elliptique du montage a bien entendu des incidences dramaturgiques, donnant à la représentation un caractère expéditif, sans parler des superbes pages dont nous sommes privés, mais elle nuit surtout à la construction du personnage, à la pleine restitution de cette psyché unique qui est au cœur de l'œuvre qui en est la raison d'être. Pour aujourd'hui, je n'étais encore capable que de faibles récits où l'on aurait sans doute bien en vain cherché trace de la détresse et de l'enchantement qui m'habitent depuis que je suis au monde et ne me quitteront vraisemblablement qu'avec la vie. Pourtant, l'oiseau, de très bonne heure à ce qu'il semble, connaît déjà son chant. Dans cette phrase, la dernière du livre, on trouve l'essentiel de l'héroïne, son insécurité dévorante et sa mélancolie chronique, puis sa justesse d'observation et sa grande sensibilité, mais surtout son indéniable vocation, son appel irrépressible pour l'écriture. À cette femme paradoxale en perpétuelle quête de liberté, Marie-Thérèse Fortin offre toute sa conviction. Sur le bord d'un fleuve imprévisible, sous un ciel changeant, elle donne à son personnage une humanité poignante. Arpentant la batture avec détermination, la comédienne incarne tout naturellement les différents âges de Gabriel, mais aussi ses nombreux interlocuteurs, notamment ceux de Paris et de Londres, pour le moins truculents. Sa performance vaut à elle seule le détour. Alors, si ça vous intéresse, La détresse et l'enchantement, le texte Gabriel Roy, montage Marie-Thérèse Fortin et Olivier Quémède, mise en scène Olivier Quémède, une coproduction du Théâtre du Nouveau Monde, du Théâtre du Trident et des Trois Tristes Tigres. Au TNM jusqu'au 10 mars, puis au Grand Théâtre de Québec durant la saison 2018-2019.
Je vois tout à l'envers. vis, j'en fais pas un supplice, j'en fais pas un supplice tant que j'ai le bon tournevis. Moi je lis comme un fou sous le soleil doux. Je dors dans la clarté des étoiles l'été. Je file dans les jours la guitare à l'envers. Puis je flâne dans un lit en écoutant la pluie et le temps passe. Et le temps passe. Loin de tous mes travers, loin de tous mes travers, et je sors de l'hiver. Du pied dans la bise, je vis sans artifice, sans but et sans malice, tant que l'air est gratis. Moi je ris comme un fou sous le soleil doux. Je dors dans la clarté des étoiles de l'été. Je file dans les jours la guitare à l'envers. Puis je flâne dans un lit en écoutant la pluie et le temps passe. Et le temps passe. Je déjoue et des fois je délaisse, et souvent je lousse la laisse. Et le temps passe et des fois me dépasse et me perd dans l'espace, et des fois
Vincent Vallière et le temps passe.
Alors, pour terminer cette émission, quelques nouvelles peut-être un peu plus légères. Je vous parle d'abord de Frances McDormand qui a remporté un Oscar dimanche soir. Elle a, dans son allocution, fait allusion à l'inclusion Rider. Qu'est-ce que c'est? Et c'est le titre de Cédric Bélanger d'ailleurs. Quelle est cette mystérieuse inclusion Rider? Frances McDormand a utilisé la vitrine qui lui était offerte quand elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dimanche soir pour faire la promotion d'une clause contractuelle favorisant plus de diversité sur les plateaux de tournage. J'ai deux mots pour vous ce soir. Inclusion Rider, a dit l'actrice, décorée pour son rôle dans trois affiches tout près d'Ebbing, Missouri, devant un auditoire qui ne savait pas du tout de quoi elle parlait. Il s'avère que cette fameuse Inclusion Rider, ou clause d'inclusion, a été créée par une professeure de l'Université de la Californie du Sud en 2016. En gros, elle permet aux acteurs d'exiger, lorsqu'ils négocient avec un producteur, une représentation plus juste des minorités, femmes, groupes ethniques, handicapés et LGBTQ2, au sein de la distribution d'un film, devant et derrière la caméra. Citée par le New York Times, la créatrice de cette clause encore méconnue, Stacey Smith, a indiqué que l'objectif était que le monde à l'écran ressemble à celui dans lequel nous vivons. En moyenne, a-t-elle dit lors d'une conférence TED, un film comporte 40 à 45 personnages qui parlent. Je dirais que seulement 8 à 10 d'entre eux sont réellement importants dans l'histoire. Pour les 30 rôles restants, il n'y a pas de raison que ces personnages mineurs ne puissent pas refléter la démographie du lieu où l'histoire se déroule. McDormand, qui n'a appris l'existence de cette inclusion Ryder que quelques jours avant la cérémonie des Oscars, est devenue la première personnalité de Hollywood à en faire la promotion publiquement. D'autres, comme l'actrice, également oscarisée Brie Larson, ont également indiqué qu'elles allaient adhérer au mouvement. Alors, il y a un journaliste né à Montréal qui a fait carrière aux États-Unis et en Europe qui revient à Montréal. Il sera le tout premier correspondant du New York Times et il demande vos idées. Le New York Times veut connaître les incontournables du Québec, un texte de Marianne Bergeron-Courteau publié dans le Journal de Montréal. Pour la première fois en plus de 70 ans, le New York Times a dépêché un correspondant à Montréal. Originaire de la métropole, mais ayant quitté sa ville natale il y a une trentaine d'années, Dan Bilewski demande l'aide des Québécois pour apprendre à redécouvrir la belle province. Depuis le 12 mars, le journaliste se lancera dans un grand road trip où il visitera Montréal, Maniwaki, Hérouville, Québec et Saguenay. Il relatera ses aventures et découvertes auprès des lecteurs du prestigieux quotidien new-yorkais. D'ailleurs, dans un article, il lance un appel aux résidents des quatre coins du Québec afin d'obtenir des conseils pour l'aiguiller dans les endroits incontournables à visiter. Quels sont les endroits connus et méconnus que je devrais visiter? Quels sont les quartiers où je devrais aller? Quelles sont les questions que je devrais poser? Et très important, où devrais-je boire et manger pour bien saisir la richesse de la culture culinaire de la province? Demande-t-il. Une chose est sûre, ce projet permettra de faire découvrir la culture québécoise aux Américains. Et une autre chose est sûre, je suis jaloux de son travail. Bonne nouvelle pour des étudiants de la côte ouest, puisque, et c'est le titre, perdu en mer, un voilier robotisé rentre au bercail un an plus tard. Il a perdu sa voile et récolté quelques égratignures, mais un voilier robotisé canadien est finalement rentré chez lui après avoir été perdu en mer pendant plus d'un an. Le voilier autonome, Sailbot en anglais, est de retour à Vancouver après avoir été retrouvé au large des côtes de la Floride en décembre. Les étudiants de l'Université de la Colombie-Britannique, UBC, avaient toujours gardé espoir de le revoir, a dit leur capitaine Serena Ramley. On savait que l'océan est très grand, mais les courants devaient le pousser vers la terre ferme quelque part, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe ou en Afrique, a-t-elle dit. Le groupe est simplement heureux que son bébé se soit retrouvé sur le bon continent, a-t-elle ajouté. Comme quoi il y avait des cibles quand même très ambitieuses, l'équipe a mis plusieurs années à concevoir et à construire ce voilier qu'elle a baptisé Ada, en hommage à la mathématicienne Ada Lovelace. Le projet s'est étiré sur plusieurs années et des centaines de personnes ont donc joué un rôle dans sa création. Le voilier était parti de Saint-Jean à Terre-Neuve en août 2016 pour un périple qui aurait dû prendre 3 semaines. Il s'est bien tiré d'affaire dans les eaux côtières, mais les problèmes ont commencé quelques jours après son départ à environ 700 km au large, indiqué Mme Ramley. Et il est disparu après environ 1200 km. L'équipe croit qu'une vague a alors arraché presque tout son gréement, emportant du même coup la plupart des capteurs. Un navire de recherche a finalement repéré le voilier en décembre 2017 et Ada est rentrée à Vancouver il y a 2 semaines. C'est assez fantastique de voir qu'elle est de retour. Elle est arrivée tôt le matin et tout le monde était en classe et j'étais seul ici. Mais chacun est passé quand il a pu à raconter Mme Ramley. C'est vraiment extraordinaire de voir dans quel état elle se trouve. Elle a traversé quelques ouragans. La coque du voilier est intacte, mis à part quelques égratignures qui vont jusqu'à la fibre de carbone. Même si elle ne s'est pas rendue à destination, Ada a établi un nouveau record pour la plus grande distance parcourue par un navire automatisé lors d'une traversée de l'Atlantique, selon UBC. L'équipe a maintenant l'intention d'examiner le voilier pour en tirer des leçons en vue du prochain projet. Les étudiants veulent inscrire un voilier robotisé à une course de 3714 km entre Victoria et Maui en 2017 ou 2020. Normalement, ce sont des marins humains qui participent à cette course, mais nous avons communiqué avec des gens qui y ont déjà pris part. Une fois que nous aurons fini ADA 2.0, nous allons l'amener au large des côtes de l'île de Vancouver pour affronter des vents puissants, expliquait Mme Ramley. Parce que c'est un projet parascolaire, nous n'avons pas d'échéancier rigide, mais on vise 2019 ou 2020. Nouvelle fusillade aux États-Unis et le prétexte semble mince, je dirais. Des coups de feu pour du papier hygiénique. Un texte de Michael Labranche. Des coups de feu ont été tirés alors que deux hommes se seraient disputés pour du papier hygiénique au Missouri. C'est ce que le chef de la police de Caruthersville, Tony Jones, a déclaré après avoir visionné des images captées par la caméra de surveillance. Au moment de la dispute à l'intérieur du Dollar General, un des deux hommes a pointé l'autre en formant un fusil avec sa main. Le même homme a finalement ouvert le feu avec un vrai pistolet quand les deux individus sont sortis du magasin. Le principal suspect s'appelle Travis Lee. Personne n'a été blessé. Plusieurs vies ont été mises en danger. On veut cet homme hors des rues. La sécurité des citoyens est la priorité du service de police, a affirmé Jones. On ne sait toujours pas s'il y avait un rabais sur l'article en question. Alors, on a souvent l'impression que le pétrole, ça vient, bon, d'Alberta, ça vient du Moyen-Orient, ça vient du Venezuela. Ce qu'on sait moins, c'est l'importance des États-Unis dans l'industrie pétrolière. Et la Associated Press nous le rappelle, les États-Unis répondront à 80% de la demande mondiale en pétrole. La production de pétrole des États-Unis répondra à environ 80% de la demande mondiale au cours des 5 prochaines années, selon l'Agence internationale de l'énergie. L'organisation prédit que l'augmentation de la production américaine compensera le fléchissement de la production de l'OPEP. L'agence parisienne a indiqué lundi, dans son rapport annuel sur le marché du pétrole, que l'explosion de la production américaine est le changement le plus important à être survenu depuis le rapport de l'an dernier. Alors, vous l'entendez, l'indicatif nous signale que cette émission tire déjà à sa fin. Je m'en voudrais de la conclure sans remercier Jean-Sébastien Laliberté qui a assuré la mise en onde et les choix musicaux. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous dans peut-être 10 ou 15 jours et ce micro revient à sa titulaire dès demain. Hélène sera là.